L'Église, une esquisse de son histoire pendant 20 siècles. Les premiers siècles. Première partie. Les temps apostoliques. Premier siècle. Pierre retourne à Jérusalem, son emprisonnement et sa délivrance. Pierre resta quelques jours à Césarée avec les nouveaux convertis, sans doute pour les instruire et les affermir dans la foi. Il retourna ensuite à Jérusalem où était déjà parvenue la nouvelle de la réception de la parole de Dieu par les païens. Combien elle aurait dû remplir de joie les juifs croyants, mais le misérable cœur de l'homme est toujours le même, égoïste jusque dans les choses de Dieu. Il est jaloux de ce que Dieu se montre bon, comme le Seigneur le disait dans la parabole des ouvriers loués à différentes heures du jour. Matthieu 20, verset 15.
Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de ce qui est mien? Ton œil est-il méchant parce que moi je suis bon?
Des Juifs devenus chrétiens, mais attachés à leur tradition, au lieu de demander à Pierre des explications sur ce qui s'était passé à Césarée, se mettent à l'accuser d'être entré chez des incirconcis et d'avoir mangé avec eux. Hélas, c'est de cette manière que nous aussi nous agissons trop souvent, en étant prompts à juger et accuser les autres. Que fera Pierre, lui, d'un caractère si ardent? Par la grâce de Dieu, il reste calme et plein de douceur et laisse à Dieu le soin de le justifier. Pour cela, il raconte simplement les faits. Il était en prière, il était auprès de Dieu, quand Dieu lui montre par une vision remarquable venant du ciel et répétait trois fois que la distinction entre juifs et païens était abolie et que l'Évangile était pour tous. Ensuite, le Saint-Esprit, ce guide infaillible qui devait conduire les apôtres, lui dit d'aller, sans hésiter, avec les hommes envoyés par Corneille, et c'était Dieu qui, par son ange, avait dit à Corneille de faire chercher Pierre. Et quand Pierre a annoncé la bonne nouvelle à Corneille et à ses amis, et qu'ils ont cru, voilà le Saint-Esprit qui descend sur ces païens convertis, tout comme il était venu sur les Juifs croyants à la Pentecôte. Tout était donc de Dieu dans cette œuvre, et que pouvait faire Pierre devant cette manifestation de la grâce de Dieu accordée aux païens? Il avait été un serviteur obéissant. Dieu, dit-il, leur a fait le même don qu'à nous. Qui étais-je, moi, pour pouvoir l'interdire à Dieu? Une réponse douce détourne la fureur, Proverbe 15, verset 1. Le simple récit de Pierre qui montrait l'œuvre merveilleuse de Dieu, s'étendant sur ceux qui étaient loin, agit sur les cœurs des Juifs croyants comme une rosée rafraîchissante. Ils se turent et glorifièrent Dieu qui donnait aux païens même la repentance et la vie. Soyons heureux aussi de voir l'Évangile se répandre et des âmes être sauvées, car c'est pour la gloire du Seigneur Jésus. Ce fut un jour de bonheur pour l'assemblée de Jérusalem, mais l'épreuve allait venir. L'ennemi, Satan, ne s'endort jamais. Déjà, il avait suscité des persécutions contre les saints. Pierre et Jean avaient été mis en prison et battus, et Étienne avait été lapidé. De nouveau, Satan, voyant les progrès de l'Évangile, cherche à s'y opposer, et il tourne sa rage surtout contre Pierre. Satan est comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. S'il peut tuer le berger, il sait que les brebis seront plus aisément sa proie. Or, le Seigneur Jésus avait établi Pierre pour être berger des brebis d'entre les Juifs, et il lui avait dit, « Paie mes agneaux, sois berger de mes brebis. » Jean 21, versets 15 à 17. Un méchant roi régnait alors en Judée, il se nommait Hérode. Mais il ne faut pas le confondre avec le cruel Hérode qui fit mourir les petits-enfants de Bethléem, ni avec le méchant Hérode qui fit couper la tête à Jean-Baptiste et qui envoya Jésus à Pilate en se moquant de lui. Ce second Hérode était fils du premier, et celui du temps de Pierre était son petit-fils. Par leur cruauté et leur méchanceté, ils se ressemblaient bien. Ce roi Hérode voulait faire plaisir aux Juifs. Il savait que rien ne leur était plus agréable que de voir les chrétiens persécutés. Il fit donc emprisonner quelques chrétiens et mettre à mort Jacques, frère de Jean. Lorsqu'il vit combien cela plaisait aux Juifs, il fit aussi jeter Pierre en prison dans le but de le faire mourir. C'était au jour de la Pâque. Comme Pierre devait se rappeler cette autre Pâque qui avait eu lieu peu d'années auparavant, et où il avait renié Jésus. Mais Jésus lui avait pardonné, et maintenant il était heureux de souffrir pour le nom de son cher maître, de son précieux sauveur. Il devait mourir après la fête de la Pâque. Hérode l'avait ainsi ordonné. Afin qu'il ne pût s'échapper, 4 bandes de 4 soldats chacune le gardaient jour et nuit en se relayant. Et Pierre, même en dormant, était toujours attaché par des chaînes à 2 de ses soldats. De plus, des gardes étaient placés aux portes, d'ailleurs solidement fermées. Que de précautions, n'est-ce pas? Hérode se rappelait sans doute que précédemment les apôtres avaient été délivrés de la prison par une intervention surnaturelle, et il croyait que cette fois Pierre, lié aux soldats, ne pourrait sortir sans les éveiller. Pierre ne tremblait-il pas? N'était-il pas agité? Non. Il était paisible. La nuit qui précédait le jour de sa mort était arrivée, et il dormait tranquillement entre les 2 soldats. N'était-il pas sous la garde du Dieu Tout-Puissant, qui pouvait le délivrer s'il lui plaisait? Et si les hommes faisaient mourir son corps, pouvait-il empêcher son esprit d'aller auprès de son cher maître qu'il aimait? Humainement, Pierre ne pouvait échapper. Toute la prudence et la puissance des hommes s'étaient réunies pour le garder. Mais il y a une puissance qui se joue des chaînes, des gardes et des portes de fer. C'est celle de Dieu à qui rien n'est impossible. Et qui fait agir cette puissance? C'est la prière. Le Seigneur Jésus, qui a dit « Toutes choses sont possibles pour Dieu », a dit aussi « Quoi que vous demandiez en mon nom, je le ferai ». Marc 10, verset 27, 11, verset 24. Et Jean 14, versets 13 et 14. Les saints de Jérusalem savaient cela, et l'assemblée adressait à Dieu d'instantes prières pour Pierre. La prière de la foi met en mouvement le cœur et le bras de Dieu maintenant comme autrefois, nous allons le voir. Les portes étaient fermées, les gardes faisaient leur office, Pierre dormait, et l'assemblée priait. Alors Dieu agit. Il envoie son ange. La prison était dans l'obscurité de la nuit, mais la lumière de Dieu y resplendit. Pierre dormait, l'ange le réveille. Pierre était dans les liens, les chaînes tombent de ses mains. « Ceins-toi, dit l'ange, chausse tes sandales, jette ton vêtement sur toi et suis-moi. » Et les soldats? Dieu les maintient endormis. Et les gardes? Dieu les frappe d'aveuglement. Et les portes? Les portes de fer s'ouvrent devant la puissance divine. Qui peut lui résister? Et c'est cette puissance qui nous garde. Nous qui sommes au Seigneur, oh quelle sécurité! L'ange conduit ainsi Pierre jusqu'au bout d'une rue et se retire. Il avait accompli son service envers un de ceux qui héritent du salut. C'est actuellement le 12 emploi des anges. Le temps vient où nous les verrons aussi exercer le jugement. Et Pierre, que pensait-il? Il avait cru jusqu'alors que tout ce qui lui arrivait était une vision. Mais... revenu complètement à lui, il reconnaît que le Seigneur, son cher maître, Jésus, avait envoyé son ange pour le délivrer, et aussitôt il se rend là où il savait trouver des frères. C'était chez une femme nommée Marie, mère de Marc qui écrivit l'évangile nommé d'après lui. Chez cette pieuse femme, plusieurs, même dans la nuit, étaient réunis et priaient. Pierre heurtait pour se faire ouvrir. Alors, une servante nommée Rode, qui, sans doute, se joignait aux prières, vint demander qui arrivait à cette heure de la nuit. Pierre se nomma, et Rode, qui connaissait et aimait l'apôtre, ayant reconnu sa voix, fut si remplie de joie qu'elle oublia d'ouvrir la porte, et rentra en courant pour annoncer aux autres la bonne nouvelle de son arrivée. Combien les saints rassemblés chez Marie durent être heureux de voir leurs prières exaucées! Mais nos pauvres cœurs sont si lents à croire que Dieu nous entend, si lents à se confier en sa bonté, que même ces saints doutent que Dieu les ait exaucés. Ils disent à Rode, « Tu es folle !» Elle savait ce qu'elle avait entendu. Elle ne peut que leur affirmer qu'elle ne se trompe pas. Alors ils pensèrent que c'était l'ange de Pierre et non lui-même. Cependant, Lorsqu'à la fin ils eurent ouvert et que Pierre fut entré, ils ne purent plus douter. Ils étaient hors d'eux-mêmes de joie et d'étonnement, et, sans doute, rendirent-ils grâces au Seigneur. Pierre leur raconta comment Dieu l'avait délivré. Il leur dit de faire connaître ces choses aux frères, puis il les quitta. Cela termine dans l'histoire que le Saint-Esprit nous a donnée, ce qui se rapporte au ministère de Pierre, bien que nous le retrouvions encore une fois. Maintenant, un autre serviteur de Dieu, Saul, autrement dit Paul, dont nous avons vu la conversion, va paraître sur la scène dans son activité à porter l'Évangile aux nations. Les premiers missionnaires parmi les païens, Antioche. Tandis que Pierre introduisait à Césarée des gentils dans l'assemblée de Dieu, le Seigneur, qui emploie les instruments qu'il veut, dirigeait d'humbles missionnaires, dont les noms nous sont inconnus, à annoncer l'Évangile aux païens dans la grande ville d'Antioche. Cette cité célèbre dans l'Antiquité, la troisième ville de l'Empire romain et surnommée la Reine de l'Orient, était située dans une plaine fertile sur les bords du fleuve Oronte, à 27 kilomètres de la mer. On dit qu'elle compta jusqu'à 500 000 habitants, tous païens, sauf un certain nombre de Juifs qui s'y étaient établis. Aujourd'hui, bien que déchu de sa grandeur passée, il s'y trouve environ 30 000 habitants, dont près du tiers professent le christianisme. Tandis que les grandes cités tombent et que la gloire du monde s'évanouit, ce qui est de Dieu est permanent. Un souvenir impérissable s'attache à cette ville. C'est là que les disciples du Seigneur furent pour la première fois nommés chrétiens. Nous avons vu qu'après la mort d'Étienne, une grande persécution avait sévi contre l'assemblée de Jérusalem, de sorte qu'un grand nombre de disciples quittèrent cette ville et se répandirent d'abord dans la Judée et la Samarie, et ensuite plus loin. Il y en eut qui, suivant les bords de la Méditerranée, passèrent en Phénicie et arrivèrent enfin à Antioche. Mais en quittant Jérusalem, ces disciples du Seigneur emportaient dans leur cœur un trésor que les hommes ne pouvaient leur ravir. C'était la connaissance de Jésus comme leur Sauveur, la vie de Dieu dans leurs âmes, la jouissance de l'amour de Dieu dans leur cœur et, par conséquent, la paix et la joie. Quand on a acquis ce trésor, on ne saurait le garder pour soi. On peut le partager sans s'appauvrir. Au contraire, et pour la gloire de Christ, et par amour pour eux, on désire que ceux qui nous entourent en jouissent aussi. Tels étaient les sentiments de ces disciples dispersés, fuyant la persécution. Leur vie et leurs paroles rendaient témoignage à Jésus. Partout où ils allaient, ils répandaient la bonne odeur de Christ. Ils annonçaient la parole. Ils n'étaient pas des apôtres, mais de simples fidèles, remplis de l'amour de Christ. Et vous, qui appartenez au Seigneur, vous pouvez aussi être des missionnaires et des évangélistes autour de vous. Cependant, retenus encore par leurs préjugés nationaux, la plupart des dispersés n'annonçaient Christ qu'aux seuls Juifs. Mais l'Esprit de Dieu qui avait conduit Pierre à Césarée agit dans le cœur de quelques-uns de ceux qui étaient venus à Antioche et, touchés de la triste condition des idolâtres et pressés, sans doute, par l'amour du Sauveur mort pour tous, ils se mirent à parler aux païens et à leur annoncer le Seigneur Jésus. C'est tout l'Évangile. Connaître le Seigneur Jésus et croire en lui répond à tous les besoins de l'âme. Le Seigneur montre que ses disciples, en annonçant son nom aux païens, étaient bien entrés dans les pensées de son cœur. Sa main, c'est-à-dire sa puissance, était avec eux. Il agit par son esprit dans les cœurs de ceux qui écoutaient la parole, de sorte qu'un grand nombre crurent et se tournèrent vers le Seigneur, laissant leurs misérables idoles et leur ancien train de vie. Quand la parole de Dieu est reçue dans le cœur, c'est toujours l'effet qu'elle produit. Elle détourne nos pensées et nos affections de nous-mêmes et du monde, et les tourne vers le Seigneur. C'est là la vraie conversion. Permettez-nous de vous demander à vous qui avez entendu si souvent l'Évangile et l'appel de Jésus vous invitant à venir à lui, vous êtes-vous tourné vers ce précieux Sauveur qui vous a tant aimé? Êtes-vous converti comme ces heureux habitants d'Antioche? Ces bonnes nouvelles arrivèrent à Jérusalem. L'assemblée les apprit, et nous pouvons être sûrs que, préparé comme il l'était par la conversion de Corneille, cette manifestation nouvelle de la grâce de Dieu envers les païens réjouit grandement le cœur des fidèles. Ils y voyaient une preuve manifeste que Dieu avait aussi donné aux nations la repentance pour la vie. Les chrétiens sont toujours heureux d'apprendre que des âmes sont amenées au Sauveur, car c'est la gloire de Christ que des pécheurs soient arrachés à Satan. Mais il était nécessaire que l'assemblée de Jérusalem, où restaient les apôtres, montrât son intérêt à ces nouveaux convertis qui, maintenant, faisaient partie de l'assemblée de Dieu. Le Seigneur veut nous apprendre ainsi que, bien qu'il y ait des assemblées en divers lieux, elles ne sont pas indépendantes les unes des autres. L'assemblée de Jérusalem envoya donc Barnabas à Antioche. Barnabas était ce lévite de l'île de Chypre qui avait vendu ses propriétés dont il avait mis le prix aux pieds des apôtres pour être distribué aux pauvres de l'assemblée. C'était un cœur désintéressé et tout au Seigneur. De plus, il savait discerner les âmes, les soutenir et les encourager dans l'épreuve. C'est ce qu'indique son nom, qui veut dire « fils de consolation », et le fait suivant nous le montre. Quand Saul, après sa conversion, fut obligé de quitter Damas parce que les Juifs voulaient le faire mourir, il vint à Jérusalem. Mais là, personne ne voulait le recevoir, on le craignait, on ne croyait pas qu'il fût un disciple. Alors Barnabas, ayant sans doute reconnu en lui l'œuvre de Dieu, l'accueillit et le mena aux apôtres auxquels il raconta comment le Seigneur avait converti le persécuteur. Vous voyez encore en cela un beau trait du caractère de Barnabas. Le Saint-Esprit vient confirmer par son témoignage ce que ses actes nous font connaître de lui. Il était homme de bien, dit la parole, et plein de l'Esprit Saint et de foi. Il était homme de bien, bon et honnête dans son caractère comme homme, mais à cela s'ajoutait ce qui est plus excellent, et sans quoi le plus beau caractère ne serait rien dans le service de Dieu. C'est le don divin, le Saint-Esprit, qui remplissait Barnabas de la vie de Dieu, et la foi par laquelle il s'attendait à Dieu, et mettait en lui toute sa confiance. Ce sont là les caractères désirables et nécessaires pour un serviteur de Dieu. Mais nous pouvons tous en tirer une leçon, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir un caractère bon et aimable, de nobles et belles qualités. Avant tout, il faut la foi et l'Esprit Saint dans le cœur. Cet homme de bien qui aimait le Seigneur Jésus fut réjoui en voyant la réalité et l'étendue de l'œuvre de la grâce de Dieu chez les convertis d'Antioche. Il les exhorta à rester attachés au Seigneur de tout leur cœur, comme chacun de nous est exhorté à le faire. Le ministère de Barnabas à Antioche fut béni. Une grande foule de personnes furent ajoutées au Seigneur, c'est-à-dire converties et sauvées. Remarquez cette expression « ajoutées au Seigneur ». Ceux qui sont convertis ne sont pas ajoutés à une dénomination humaine quelconque, mais au Seigneur, comme faisant partie de son peuple céleste, comme membre de son corps. Tout était pour la gloire du Seigneur seul. L'œuvre de la grâce s'étendant ainsi, Barnabas sentit le besoin d'un collaborateur pour l'aider dans son service, et il pensa à Saul qui lui avait sans doute raconté que le Seigneur, lorsqu'il lui apparut, l'avait désigné pour prêcher l'Évangile aux nations. Saul avait bien rendu témoignage de sa foi au Seigneur Jésus dans les synagogues, parmi les Juifs, mais il attendait l'appel du Seigneur pour entrer dans son service auprès des païens. où était alors Saul, non plus à Jérusalem. Il y avait prêché Christ, et les Juifs, remplis de haine contre celui qui avait été un de leurs principaux appuis et qui s'était tourné vers le Seigneur, avaient voulu le faire mourir. Alors les frères avaient conduit Saul à Césarée, d'où il s'était rendu à Tarse, sa ville natale. C'est là que Barnabas alla le chercher. Saul vint donc avec lui à Antioche, et, pendant un an tout entier, ils se réunirent dans l'assemblée et enseignèrent une grande foule, affermissant les nouveaux convertis et annonçant l'Évangile. Ce mouvement remarquable, cette œuvre merveilleuse de l'Esprit de Dieu, qui faisait que les païens se tournaient des idoles vers le Dieu vivant et vrai, frappa les habitants d'Antioche. On voyait les nouveaux convertis parler de Christ, s'attacher à Christ, se réclamer de Christ, et on les nomma chrétiens, c'est-à-dire ceux qui sont de Christ. C'était, dans la bouche des païens, un terme de moquerie et une injure. Mais quel beau nom ! Être de Christ, être à Christ, il n'y a pas de nom plus glorieux. Aussi l'apôtre Pierre dit-il, « Si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte, mais qu'il glorifie Dieu en ce nom. » En effet, il ne suffit pas de porter ce nom et de vivre comme le monde, mais il faut glorifier Dieu en vivant de la vie de Christ. Alors seulement on est vraiment chrétien. Les chrétiens d'Antioche comprenaient bien ce que c'était que d'être de Christ. Ils sentaient qu'ils étaient unis aux autres disciples du Seigneur de quelque nation qu'ils fussent, et qu'ils avaient à le leur témoigner par leur amour. Des prophètes, c'est-à-dire des croyants ayant le don de prophétie, étant venus de Jérusalem à Antioche, l'un d'eux, nommé Agabus, annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre habitée. Aussitôt les disciples, le cœur ému d'affection pour leurs frères de Judée appauvris par la persécution, leur envoyèrent par Barnabas et Saul le produit de ce que chacun avait donné selon ses ressources. Ainsi ces païens convertis montraient dans la pratique qu'ils étaient membres du corps de Christ et de la famille de Dieu, tout comme les convertis d'entre les Juifs. Le premier voyage missionnaire de Paul, son séjour en Chypre. Barnabas et Saul, ayant remis aux anciens de l'assemblée de Jérusalem la collecte des chrétiens d'Antioche, revinrent dans cette dernière ville. Mais ils n'étaient pas seuls. Un jeune chrétien de Jérusalem les accompagnait, c'était Jean, surnommé Marc, le fils de Marie chez qui Pierre s'était rendu en sortant de prison et qui était aussi neveu de Barnabas. L'assemblée d'Antioche, composée pour la plus grande partie de païens convertis, était riche en ouvriers du Seigneur. Il y avait là des prophètes et des docteurs, les uns révélant les pensées de Dieu, les autres les exposant et les développant de manière à instruire les fidèles. C'est Christ qui, étant monté au ciel, donne ainsi des hommes propres à accomplir son œuvre de grâce. Il a commencé par s'offrir lui-même en sacrifice pour les pécheurs. Il a remporté la victoire sur le diable, le péché, la mort et le monde, puis, étant ressuscité, il est monté au ciel. Et maintenant, pour annoncer le salut aux pécheurs perdus, il donne des évangélistes pour instruire et édifier ceux qui ont cru et font ainsi partie de son assemblée. Il donne des pasteurs et des docteurs. Un homme ne peut pas entrer de lui-même dans cette sainte carrière d'évangéliste, de pasteur ou de docteur. Il faut que Christ l'ait donné pour cela. D'autres hommes ne peuvent l'y appeler. Tout doit venir de Christ seul, le chef de l'Église, et c'est le Saint-Esprit qui opère pour former, envoyer et diriger les serviteurs de Christ. Parmi les prophètes et docteurs d'Antioche se trouvaient Barnabas et Saul. Tandis que les uns et les autres, avec des cœurs consacrés au Seigneur, s'occupaient de son service, l'Esprit-Saint dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Comment l'Esprit-Saint parla-t-il? Sans doute par la bouche de l'un des prophètes. Mais remarquons-le bien, ce n'est pas d'eux-mêmes que Barnabas et Saul agissent, c'est le Saint-Esprit, Dieu lui-même, qui les a appelés pour l'œuvre. Et quelle était cette œuvre? C'était d'aller annoncer l'Évangile au milieu des nations idolâtres. Barnabas et Saul étaient des missionnaires appelés de Dieu. Il devait leur coûter de laisser leurs frères d'Antioche et cette assemblée si florissante pour aller ils ne savaient encore où. En tout cas, c'était au milieu d'étrangers où ils rencontreraient l'opposition suscitée par Satan et par l'inimitié naturelle du cœur de l'homme. Ils devaient aller seuls, sans appui humain, comme des brebis au milieu des loups. Mais le Seigneur les envoyait, ils allaient pour son nom, et ils pouvaient compter sur sa fidélité. Pour lui d'ailleurs, qui les avait aimés et sauvés, pour l'amour des âmes auxquelles ils allaient porter l'Évangile, ils étaient prêts à affronter tous les dangers, à supporter toutes les privations, à perdre même leur vie. C'est l'Esprit qui a toujours animé les vrais serviteurs du Seigneur. Avant leur départ, leurs frères qui restaient à Antioche s'unirent à eux dans le jeûne et la prière. Tous sentaient l'importance de cette mission et le besoin du secours du Seigneur. Et pour montrer qu'ils s'associaient à ceux qui partaient, ils leur imposèrent les mains. Ce n'était pas pour les consacrer. Barnabas et Saul l'étaient déjà par l'appel du Seigneur, mais c'était comme pour leur dire « Nous sommes avec vous de tout cœur dans cette œuvre ». Ils partirent donc, envoyés non par l'homme, mais par l'Esprit-Saint. Jean, surnommé Marc, les accompagnait comme serviteurs, c'est-à-dire pour leur rendre des services qui faciliteraient leurs tâches. Ils descendirent à Séleucie, port d'Antioche, et de là, s'étant embarqués, ils firent voile vers l'île de Chypre. Chypre est une grande île située dans l'angle nord-est de la mer Méditerranée, en face de la Syrie à l'est et ayant l'Asie mineure au nord. Elle était renommée par sa fertilité et la beauté de son climat. Deux chaînes de montagnes la traversent de l'est à l'ouest, laissant entre elles une belle plaine nommée Massaria. Deux rivières alimentées par des ruisseaux descendant des montagnes l'arrosent, l'une se dirigeant vers l'est, l'autre vers l'ouest. Les montagnes renfermaient de riches mines de cuivre. L'île comptait plusieurs villes, parmi lesquelles Salamine, port de mer à l'est, en face de la Syrie. C'est là que les apôtres abordèrent, et que d'abord ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient à cœur ce pauvre peuple auquel appartenaient les promesses de Dieu, et du milieu duquel le Seigneur appelait encore des âmes au salut. Il ne nous est rien dit du résultat de la prédication de Barnabas et de Saul parmi les Juifs. Nous ne savons pas non plus s'ils s'adressèrent aussi aux païens. Toutefois, cela est probable, et sans doute la parole de Dieu ne demeura point sans effet. De Salamine, ils se rendirent à Paphos, autre port de mer à l'ouest, en face de l'Asie mineure. Pour y arriver, ils traversèrent toute l'île, en passant sans doute par la plaine de Massaria. Il ne nous est pas dit s'ils prêchaient l'Évangile durant ce trajet, mais comment n'auraient-ils pas parlé de ce qui remplissait leur cœur? Paphos, qui n'est maintenant qu'une modeste localité nommée Bapho, était alors le siège du gouvernement romain, représenté par un proconsul. Là s'élevait un temple magnifique, consacré à l'impure divinité Vénus. Combien n'était-il pas désirable que l'Évangile fût annoncé à ces pauvres païens, que le diable avait amenés à offrir un culte dégradant à des idoles abominables? Des Juifs s'étaient établis dans l'île de Chypre, comme nous l'avons vu en parlant de Salamine. Parmi eux se trouvait à Paphos un homme nommé Bar-Jésus, du plus triste caractère. ce n'était pas un vrai juif ayant la crainte de Dieu dans son cœur et soumis aux Écritures. Dans ce cas, il aurait pu faire du bien en éclairant les païens au sujet du vrai Dieu et les préparer ainsi à recevoir l'Évangile. Mais c'était un magicien comme il y en avait beaucoup en ce temps-là, c'est-à-dire un homme qui se livrait à certaines pratiques par lesquelles il prétendait avoir des relations avec le monde invisible, évoquer les morts et chasser les démons. Or les Écritures de l'Ancien Testament condamnent formellement de tels gens. De plus, Bar-Jésus était faux prophète, prétendant faussement être envoyé de Dieu et parler en son nom. Cet homme, par quels moyens nous l'ignorons, se trouvait auprès du proconsul ou gouverneur romain nommé Serge Paul. Le caractère de celui-ci nous est aussi tracé en un seul mot, il était un homme intelligent. La vraie intelligence ne consiste pas seulement à comprendre vite et bien ce que l'on nous dit. Elle se montre avant tout dans la recherche de la vérité et de ce qui est bon selon Dieu. C'est en ce sens que le proconsul Serge Paul était intelligent. Les superstitions païennes avaient sans doute dégoûté Serge Paul. Les raisonnements des philosophes n'avaient pas satisfait son intelligence, et les prétentions de Bar-Jésus à des dons surnaturels n'avaient pas répondu aux besoins de son âme. Aussi, lorsqu'il eut entendu parler de Barnabas et de Saul, il voulut les entendre. Il les fit appeler, et ceux-ci exposèrent devant lui les saintes et salutaires vérités de la parole de Dieu. Nous ne pouvons douter qu'ils ne lui parlassent de l'amour de Dieu et du Seigneur Jésus qu'il a envoyé pour sauver les pécheurs, tant juifs que gentils, car c'est là le résumé de la parole de Dieu. Bar-Jésus était là qui écoutait aussi les apôtres, mais de même que les juifs qui s'étaient opposés au Seigneur et l'avaient fait mourir, qui avaient tué Étienne et qui avaient persécuté l'assemblée, Bar-Jésus aussi, au lieu de recevoir la vérité, résistait à la parole de Barnabas et de Saul, c'est-à-dire à Dieu lui-même, et cherchait à détourner le proconsul de la foi, faisant ainsi l'œuvre du diable. Il ne voulait pas du salut pour lui-même, et il cherchait à empêcher les autres d'être sauvés. Quelle iniquité! Alors Saul, non pas saisi d'une indignation charnelle, mais rempli de l'Esprit-Saint, s'adressa à lui. C'était la voix de Dieu même prononçant le jugement sur ce misérable instrument de Satan. « Ô homme plein de toute fraude et de toute méchanceté, lui dit Saul, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu pas de pervertir les voies droites du Seigneur ? » Quelles paroles sévères, n'est-ce pas ? Mais elles étaient bien méritées. Car tandis que le Seigneur, dans ses voies droites, conformes à son amour, voulait sauver Serge Paul, Bar-Jésus cherchait à l'entraîner à sa perte. Aussi Dieu ne se borne-t-il pas à ses paroles, mais il annonce au faux prophète, par la bouche de Saul, un châtiment qui l'atteint immédiatement. La main du Seigneur est sur toi, et tu seras aveugle, sans voir le soleil pour un temps. La main du Seigneur, qui s'étend pour bénir ceux qui le craignent, frappe ceux qui lui résistent. Pauvre Bar-Jésus, image de la nation juive qui a rejeté Jésus, il devient aussitôt aveugle. L'obscurité et les ténèbres tombent sur celui qui avait la prétention d'être la bouche de Dieu. Celui qui voulait conduire les autres cherche çà et là quelqu'un qui le conduise par la main. Comme je l'ai dit, il est bien l'image de la nation juive qui, ayant rejeté Jésus, est encore dispersée, errante dans les ténèbres, comme le dit le prophète Ésaïe. Il regardera en haut, et il fixera son regard sur la terre, et voici la détresse et les ténèbres, l'obscurité de l'angoisse, et il est repoussé dans d'épaisses ténèbres. Ésaïe 8, verset 22. Mais ce n'est, comme pour Bar-Jésus, que pour un temps. La miséricorde de Dieu envers ce pauvre peuple s'exercera plus tard. Ainsi que l'ajoute le prophète, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort, La lumière a resplendi sur eux. Ésaïe 9, verset 2. Quand sera-ce? C'est quand le Seigneur reviendra et que le résidu juif le reconnaîtra pour son Messie et son roi. Et le proconsul, que dit-il devant cette manifestation de la puissance de Dieu? Il crut, mais ce ne fut pas à cause du miracle, bien qu'il ne pût autrement qu'en être frappé. Il crut, étant saisi par la doctrine du Seigneur. Cette doctrine, l'évangile du salut, répondait pleinement aux besoins de son âme. Elle seule peut aussi répondre au nôtre. Tel fut le premier fruit qui nous soit montré de la mission de Saul. Depuis ce moment, il quitte son nom juif et prend le nom grec et romain de Paul. Il ne nous est pas dit comment ni pour quelle raison, mais ce nom convenait bien, puisqu'il était surtout l'apôtre des nations. Cette histoire de Serge Paul et de Bar-Jésus nous présente ce qui partout caractérisera l'œuvre de Paul. On y voit l'apôtre apportant la vérité de Dieu, touchant le Seigneur, les nations désireuses de l'entendre et les Juifs s'y opposant. Ceux qui avaient été le peuple de Dieu deviennent ses plus grands adversaires. Combien cela est triste! Prédication à Antioche de Pisidie. Après avoir accompli l'œuvre que le Seigneur leur avait donnée à faire dans l'île de Chypre, les apôtres avec Marc partirent de Paphos pour se rendre en Asie. Ils débarquèrent dans la province de Pamphylie, au nord-ouest de Chypre, et se rendirent à Perge, ville principale de cette province. Cette ville existe encore et porte le nom de Kara-Hissar ou Château Noir. C'est là que Jean, surnommé Marc, quitta Paul et Barnabas pour retourner à Jérusalem. Le motif ne nous en est pas donné ici, mais nous pouvons bien penser, d'après ce qui est dit plus loin, qu'il fut effrayé et découragé en voyant de près les difficultés de l'œuvre. Sa foi et sa confiance au Seigneur ne furent pas assez fortes pour lui faire affronter les luttes et les combats pour l'Évangile. Mais il est doux de penser que ce ne fut que pour un temps. Le Seigneur, dans sa grâce, l'enseigna et le fortifia pour son service. Longtemps après, il était auprès de Paul, alors en prison à Césarée, et l'apôtre, dans son épître aux Colossiens, leur recommande de le recevoir s'il venait vers eux. Il le comptait au nombre de ses compagnons d'œuvre, et écrivant à Timothée, il lui dit de le lui amener, parce qu'il lui était utile dans le service. L'apôtre Pierre, avec qui il était à Babylone, le nomme son fils, et enfin le Seigneur le choisit pour écrire l'évangile qui porte son nom, lui assurant ainsi un précieux service qui durera aussi longtemps que l'Église. Colossiens 4, verset 10.
Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, et Marc, le neveu de Barnabas, touchant lequel vous avez reçu des ordres, s'il vient vers vous, recevez-le.
De Timothée 4, verset 11.
Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le service.
1 Pierre 5, verset 13.
Celle qui est élue avec vous à Babylone vous salue, et Marc, mon fils.
Telle est la grâce et la puissance du Seigneur. Il ne brise pas le roseau froissé, mais se glorifie dans les faibles. Paul et Barnabas s'en allèrent donc seuls dans une contrée inconnue d'eux pour y annoncer l'Évangile. Ils rencontraient bien partout des synagogues juives. Mais partout aussi les Juifs incrédules se montraient les adversaires acharnés des apôtres, de leur doctrine et du nom de Jésus. Nous ne savons pas si, en passant à Perge, ils y annoncèrent l'Évangile. Ils traversèrent le pays et arrivèrent à une ville nommée Antioche, comme celle d'où ils étaient partis, mais située dans la province de Pisidie au nord de la Pamphylie. Cette ville, dont il n'existe plus que des ruines magnifiques, qui parlent de son ancienne grandeur, était située sur le flanc du mont Taurus, non loin d'un beau lac. Mais si la ville avec sa splendeur a disparu de la surface de la terre, il y aura dans le ciel des monuments impérissables formés au milieu d'elle, des âmes sauvées, fruits du travail des envoyés du Seigneur. Paul et Barnabas, suivant leur coutume, se rendirent d'abord, le jour du sabbat, dans la synagogue où les Juifs s'assemblaient pour la prière et pour entendre la lecture de la loi et des prophètes. Comme ils étaient étrangers, leur présence fut bientôt remarquée, et les chefs de la synagogue, ceux qui présidaient les exercices religieux, les reconnaissant sans doute pour des Juifs lettrés, leur envoyèrent dire d'adresser, s'ils le désiraient, une parole d'exhortation au peuple. Les apôtres avaient, en effet, une parole, une précieuse parole pour ceux qui se trouvaient rassemblés dans la synagogue. C'était pour l'annoncer que Dieu les avait envoyés et qu'il avait mis au cœur des chefs de la synagogue de les engager à parler. Quelle était donc cette parole? Celle du salut par Christ, la parole de la réconciliation. Ce fut Paul par qui l'Esprit de Dieu s'adressa aux Juifs d'Antioche en ce jour de sabbat. C'était un jour bien sérieux que celui où, pour la première fois, l'Évangile leur était annoncé. Il s'agissait, pour ceux qui l'entendaient, de croire et d'être sauvés, ou bien, en étant incrédules et en restant dans leur péché, de risquer de périr à jamais. Paul se leva donc pour prêcher Jésus. Avec quelle joie il le faisait, lui qui avait été un Juif persécuteur et blasphémateur, mais qui avait trouvé grâce et avait appris à connaître l'amour de Christ, combien ardemment il désirait que ceux de sa nation, le peuple que Dieu avait tant béni et à qui étaient les promesses, Romains 9, versets 3 à 5, crussent en celui en qui toutes les promesses avaient leur accomplissement. Romains 9, versets 3 à 5, car moi-même j'ai souhaité d'être par anathème séparé du Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, auxquels sont l'adoption, et la gloire, et les alliances, et le don de la loi, et le service divin, et les promesses, auxquels sont les pères, et desquels, selon la chair, est issu le Christ, qui est sur toute chose Dieu béni éternellement. Amen. C'est là ce qui remplissait le cœur de Paul, comme nous le voyons par son discours. Il n'y avait pas que des Juifs dans son auditoire, mais aussi des prosélytes qui craignaient Dieu. Paul s'adresse à tous. Il rappelle d'abord les grâces dont Dieu avait comblé le peuple d'Israël en le choisissant, en le tirant d'Égypte et en l'introduisant en Canaan. Puis il arrive rapidement au choix que Dieu avait fait de David comme roi, en disant « J'ai trouvé David, le fils de Jessé, un homme selon mon cœur qui fera toute ma volonté. » Mais si Paul parle de David, c'est pour annoncer à ses auditeurs celui que Dieu a fait naître dans la postérité de David pour être sauveur à Israël, c'est-à-dire Jésus. « Homme frère, dit-il, fils de la race d'Abraham, à vous et à ceux qui parmi vous craignent Dieu, la parole de ce salut est envoyée. » Et il montre comment les habitants de Jérusalem, la cité privilégiée, et les chefs du peuple, n'ayant pas reconnu Jésus comme le Christ, ni compris les prophètes qui parlent de lui, et qu'ils lisaient cependant chaque jour de sabbat, avaient, sans le savoir, accompli leurs paroles en jugeant et en condamnant Jésus, et en demandant à Pilate de le faire mourir, bien qu'il n'eût trouvé en lui aucun mal. Et après qu'ils eurent accompli toutes les choses qui sont écrites de lui, continue Paul, choses relatives à ses souffrances et à sa mort, et que nous pouvons lire spécialement dans le psaume 22 et le chapitre 53 du prophète Ésaïe, quand Jésus fut mort sur la croix, ils le descendirent du bois et le mirent dans un sépulcre. Mais pouvait-il rester dans le sépulcre? Non. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, dit Paul. Durant plusieurs jours, il a été vu de ses disciples, de ceux qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple, en Judée. Et, tandis que l'Évangile était prêché là où Jésus avait vécu, avait souffert, était mort et avait été ressuscité, Dieu le faisait proclamer aussi au loin. « Et nous, dit l'apôtre, nous vous annonçons la bonne nouvelle quant à la promesse qui a été faite au Père, que Dieu l'a accomplie envers nous leurs enfants, ayant suscité Jésus. Comme aussi il est écrit dans le psaume second, « Tu es mon Fils, moi je t'ai aujourd'hui engendré. » Ce Jésus, mis à mort sur une croix infâme, était le Fils de Dieu. Et comment cela a-t-il été démontré? Par la résurrection. Paul ajoute, en citant encore les Écritures, « Or, qu'il l'ait ressuscité d'entre les morts, il l'a dit ainsi, « Tu ne permettras point que ton sein voie la corruption. » Ce sont les paroles de David au psaume 16. Mais David ne parlait pas de lui-même, car lui a vu la corruption, mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Paul, ayant ainsi parlé de la mort et de la résurrection de Jésus, montre à ses auditeurs le résultat glorieux de l'œuvre de Christ. Sachez donc, hommes frères, que par lui vous est annoncée la rémission des péchés, et que de tout ce dont vous n'avez pu être justifié par la loi de Moïse, quiconque croit est justifié par lui. C'est ainsi que, de même que Pierre l'avait annoncé à Corneille, Paul proclame aussi la rémission des péchés par Jésus, le Sauveur, pour quiconque croit. C'était la parole du salut, la bonne nouvelle de l'accomplissement des promesses de grâce. Paul termine son discours par une solennelle exhortation à ne pas mépriser un si grand salut. Tel fut l'évangile annoncé en ce jour à Antioche de Pisidie. Tel est l'évangile proclamé encore aujourd'hui. C'est Jésus, sa mort pour nos péchés, sa résurrection pour notre justification, la rémission des péchés accordée à cause de lui à quiconque croit. Il n'y a pas d'autre voie de salut, et si quelqu'un la méprise, quel espoir y a-t-il pour lui? Quel fut le résultat de cette prédication puissante? Elle avait certainement frappé tous les auditeurs, car on demanda aux apôtres d'exposer de nouveau ces vérités le sabbat suivant. Mais il y eut plus. Plusieurs des Juifs et des prosélytes qui servaient Dieu furent saisis par la grâce du Seigneur et suivirent Paul et Barnabas, qui les exhortèrent à persévérer. Car il ne suffit pas d'avoir écouté la parole, ni même de l'avoir aussitôt reçue avec joie, il faut persévérer. Ce qui est dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, la retiennent dans un cœur honnête et bon, et portent du fruit avec patience. Luc 8, verset 15. Le sabbat suivant arriva. Le bruit de la prédication des apôtres s'était répandu, et presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Cela aurait dû remplir de joie les Juifs s'ils avaient eu vraiment à cœur le bien des âmes et la gloire de Dieu. Au lieu de cela, ils furent remplis de jalousie en voyant que d'autres qu'eux-mêmes étaient écoutés des foules. Au lieu de chercher si c'était bien la vérité selon les Écritures que Paul et Barnabas annonçaient, ils se mirent à les contredire et à blasphémer le saint nom du Seigneur. Quelle triste condition! Ils se fermaient à eux-mêmes la voie du salut, et non seulement cela, ils voulaient empêcher que les nations fussent sauvées. C'était l'œuvre de Satan. Paul et Barnabas leur adressent alors des paroles sévères. « C'était à vous, premièrement, leur disent-ils, qu'il fallait annoncer la parole de Dieu. Mais puisque vous la rejetez, et que vous vous jugez vous-mêmes indignes de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les nations. » Quel terrible sort! Se juger indigne de la vie éternelle en rejetant le Seigneur, être rejeté soi-même et périr. Voilà ce qui attend le pécheur impénitent. Mais la grâce que les Juifs rejettent se tourne vers les gentils méprisés par eux. Paul et Barnabas rappellent aux Juifs les paroles d'Ésaïe. « Je te donnerai aussi pour être une lumière des nations, pour être mon salut jusqu'au bout de la terre. » Ésaïe 49, verset 6. C'est Jésus rejeté par les Juifs qui est cette lumière qui maintenant nous éclaire. C'est lui qui est ce salut annoncé partout par les serviteurs du Seigneur. la grâce rejetée par les Juifs se tourne vers les gentils, qui se réjouirent d'apprendre qu'ils étaient les objets de l'amour de Dieu. Mais cela ne suffit pas, il faut croire, recevoir dans son cœur la parole de Dieu pour posséder la vie éternelle. Il y eut plusieurs de ces gentils d'Antioche en qui la semence jetée porta son fruit, qui crurent et furent sauvés. Et la parole du Seigneur, présentée par ses serviteurs, ne borna pas son effet à Antioche, elle se répandit dans tout le pays. Mais l'ennemi ne dormait pas. Il se servit de la jalousie et de la méchanceté des Juifs, qui excitèrent contre les apôtres les femmes de qualité qui étaient prosélytes et auxquelles leur position donnait de l'influence. Ils leur représentèrent, sans doute, Paul et Barnabas comme des séducteurs religieux apportant des doctrines pernicieuses. Ils s'adressèrent aussi aux principaux de la ville près de qui, peut-être, ils firent passer les apôtres comme des perturbateurs de la tranquillité publique. Ils suscitèrent ainsi une persécution contre Paul et Barnabas, qui furent chassés du territoire d'Antioche. Mais cela anéantissait-il l'œuvre accomplie par la grâce de Dieu? En aucune manière. Des âmes avaient été arrachées à la puissance de Satan, sauvées pour l'éternité et ajoutées à l'assemblée. Les disciples, malgré la persécution, étaient remplis de joie et de l'Esprit-Saint, trésor précieux que nul ne peut ravir à qui le possède. Évangélisation à Iconium, Lystre et Derbe. Les apôtres, chassés d'Antioche, se rendirent à Iconium, capitale de la province de Lycaonie. C'était une ville célèbre et populeuse, à environ 100 kilomètres au sud-est d'Antioche, et qui existe encore sous le nom de Konya. Arrivés là, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue pour annoncer l'Évangile. Nous voyons que ces fidèles serviteurs de Dieu ne se laissaient pas décourager par les persécutions. Ils aimaient Jésus, leur cher maître qui les avait envoyés, et ne craignaient pas de souffrir pour son nom, et ils aimaient les pauvres pécheurs pour lesquels Jésus était mort. Ils étaient heureux d'annoncer le salut à tous, juifs et grecs, malgré tous les maux que cela leur attirait. C'est ainsi que Paul disait « J'endure tout pour l'amour des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est dans le Christ Jésus. » Et si nous nous étonnons de ce que, malgré la méchanceté des Juifs, c'était toujours à eux les premiers que Paul et Barnabas s'adressaient, il faut nous rappeler que ces Juifs étaient le peuple choisi par Dieu, aimé de lui à cause de leur père Abraham, Isaac et Jacob, et qu'ainsi ils avaient droit les premiers à jouir de l'accomplissement des promesses de Dieu en Christ. Les apôtres comprenaient très bien cela, et, Israélites eux-mêmes, ils étaient heureux de prêcher l'Évangile à leurs frères selon la chair, dans l'espoir qu'ils croiraient et seraient sauvés. Ils entrèrent donc dans la synagogue d'Iconium, et, pleins de courage dans le Seigneur, ils parlèrent de telle sorte qu'un grand nombre de Juifs et de Grecs crurent. Nous voyons qu'il y avait toujours dans les synagogues des Grecs, qui avaient acquis, par le moyen des Juifs, une certaine connaissance du vrai Dieu. Ils étaient ainsi préparés à recevoir l'Évangile, et cela nous donne une autre raison pour laquelle les apôtres commençaient toujours à prêcher dans les synagogues. Ainsi, le Saint-Esprit donnait puissance à la parole des envoyés du Seigneur. Mais là aussi, les Juifs incrédules ne pouvaient souffrir de voir l'Évangile annoncé et reçu dans les cœurs et, dans leur méchanceté, ils cherchaient non seulement à empêcher les païens de croire, mais ils les excitaient contre les frères. Les frères, tel était le doux nom que les chrétiens se donnaient entre eux comme membres de la famille de Dieu. Mais les apôtres ne se laissèrent pas intimider. Ils demeurèrent là assez longtemps, parlant hardiment aux âmes. D'où venait donc leur courage? Du Seigneur, sur lequel ils s'appuyaient, du Seigneur à qui toute puissance appartient dans les cieux et sur la terre, et qui a promis à ses disciples d'être avec eux jusqu'à la fin. Le Seigneur était avec Paul et Barnabas, et confirmait la parole de sa grâce par les miracles qu'il leur donnait d'opérer. Remarquons cette expression, la parole de sa grâce. Ce que les apôtres annonçaient, c'était la grâce de Dieu qui apporte le salut, et qui est apparue à tous les hommes dans la personne de son Fils bien-aimé, afin qu'il soit sauvé. Tite 2, verset 11.
Car la grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les hommes.
Mais Satan ne peut souffrir la prédication de la grâce souveraine qui arrache à sa puissance les pauvres pécheurs. Aussi suscita-t-il une opposition toujours plus grande contre les apôtres. La ville fut partagée en deux camps, les uns étaient pour les apôtres, les autres pour les juifs. Et comme les méchants ne craignent pas d'employer la violence, les chefs, soit des païens, soit des juifs, résolurent de se défaire des apôtres en les lapidant. Paul et Barnabas, l'ayant appris, obéirent à la parole du Seigneur qui avait dit « Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. » Et ils s'enfuirent d'Iconium. Ils avaient dû beaucoup endurer, car, longtemps après, Paul écrivait à Timothée « Tu as pleinement compris mes persécutions, mes souffrances, telles qu'elles me sont arrivées à Antioche, à Iconium et à Lystre. » Mais, ajoute-t-il, avec un profond sentiment de reconnaissance, le Seigneur m'a délivré de toutes. 2 Timothée 3, verset 11. Les apôtres ne s'étaient pas enfuis d'Iconium pour abandonner l'œuvre du Seigneur. Ils étaient heureux de souffrir pour le nom de Jésus. Ils étaient ambassadeurs pour Christ, et leur vie ne leur importait point, pourvu qu'ils portassent aux hommes le message dont ils étaient chargés, celui de la réconciliation avec Dieu par le sang de la croix. Ils allèrent donc plus loin, dans d'autres villes de la Lycaonie, à Lystre, à Derbe, et dans les environs, annonçant partout la bonne nouvelle du salut. Ils se trouvaient dans un pays entièrement païen, où régnait la plus grossière idolâtrie. Comme Paul le dit dans l'Épître aux Romains, les hommes ont changé la gloire du Dieu incorruptible en la ressemblance de l'image d'un homme corruptible. Innombrables étaient les dieux et les déesses dont les hommes avaient peuplé les cieux, la terre et la mer, qu'ils représentaient sous la figure d'hommes et de femmes, et auxquels ils attribuaient toutes les plus dégradantes passions du cœur humain. Ils excusaient ainsi leurs propres vices. Au fond, comme le dit encore l'apôtre Paul, c'étaient des démons qu'ils adoraient sous ces noms de dieux et de déesses, et auxquels ils rendaient un culte abominable. La divinité en honneur à Lystre était Jupiter, que les païens s'imaginaient être le maître des dieux, et celui qui, du haut du ciel, lançait la foudre. Une autre divinité était Mercure, dieu de l'éloquence. On racontait que dans les temps reculés, Jupiter, accompagné de Mercure qui portait la parole, était venu dans cette même contrée de Lycaonie pour punir les hommes méchants. Ce que nous venons de dire fera mieux comprendre la suite de notre récit. Si les apôtres étaient heureux d'annoncer Jésus, le Messie promis, aux Juifs héritiers des promesses, combien ils devaient aussi se réjouir de pouvoir faire connaître le vrai Dieu aux misérables adorateurs des démons. C'est ce qui arrive encore de nos jours. Tandis que de fidèles serviteurs de Dieu prêchent le salut par la foi en Jésus, à ceux qui, tout en portant le nom de chrétiens, n'ont pas la vie de Dieu, d'autres serviteurs du Seigneur vont annoncer l'Évangile aux païens encore si nombreux sur la surface du globe. Rappelons-nous bien que les chrétiens de nom, aussi bien que les païens, ont besoin de connaître Jésus et de croire en lui comme leur sauveur pour ne pas périr. Et nous, qui appartenons au Seigneur, souvenons-nous dans nos prières et des serviteurs de Dieu qui annoncent l'Évangile auprès et au loin, et de ceux à qui cette bonne nouvelle est présentée. Paul prêchait donc aux habitants de Lystre. parmi ses auditeurs se trouvait un homme impotent dès sa naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait l'apôtre parlant d'un Dieu puissant et miséricordieux, et son cœur recevait la parole, car la foi est de ce qu'on entend et ce qu'on entend par la parole de Dieu, Romains 10, verset 17. Paul le vit et discerna l'œuvre de Dieu dans le cœur de ce pauvre homme. L'impotent avait la foi pour être guéri dans son corps et sauvé dans son âme, et Paul lui dit à haute voix, « Lève-toi droit sur tes pieds ». Quelle étrange parole adressée à un homme infirme dès sa naissance. Mais il croyait à la puissance de Dieu et n'hésita pas. Il se dressa d'un coup sur ses jambes et se mit à marcher. La guérison avait été aussi complète qu'instantanée. Nous pouvons nous figurer quel effet dut produire sur cette foule d'idolâtres une telle manifestation de la puissance divine. Les fables d'autrefois, dont ils avaient été nourris dès leur enfance, leur revinrent à la mémoire, et ils s'écrièrent en langue lycaonienne, peut-être leur dialecte ancien dans lequel se transmettaient les traditions religieuses, « Les dieux, s'étant fait semblables aux hommes, sont descendus vers nous, et ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. » Un temple de Jupiter s'élevait près de la ville, et le prêtre de ce dieu arriva avec des taureaux, ornés de couronnes et de bandelettes, selon la coutume, pour les sacrifier à ceux que l'on prenait pour des dieux. En voyant l'aveuglement de ces pauvres gens, les apôtres éprouvèrent une profonde douleur qu'ils manifestèrent en déchirant leurs vêtements. Comment auraient-ils pu accepter un hommage qui n'est dû qu'à Dieu seul ? Pour détromper la foule et proclamer la vérité, ils s'élancèrent au milieu de ceux qui voulaient les adorer, disant « Hommes, pourquoi faites-vous ces choses? Nous sommes, nous aussi, des hommes. » Puis, exposant leur message, ils exhortèrent ces païens à se détourner de leurs idoles mortes et vaines, sans puissance ni vérité, et à se tourner vers le Dieu vivant, le Créateur de toutes choses, qui, dans sa providence, gouverne tout, prend soin de tous les hommes et se plaît à leur faire du bien. À grand-peine purent-ils empêcher les foules de sacrifier, mais l'attention avait été éveillée, une preuve visible de la puissance du vrai Dieu avait été donnée, et les apôtres continuèrent, sans doute, à instruire les habitants de l'Istre touchant le Dieu vivant, et à leur annoncer que, dans son amour, il a envoyé son Fils bien-aimé pour sauver les hommes perdus. Le Saint-Esprit opéra à l'Istre en faisant pénétrer la parole de la grâce dans plusieurs cœurs. Là aussi, des âmes furent sauvées et ajoutées à l'assemblée. Parmi ceux qui crurent pouvait être un jeune homme dont le nom nous est bien connu et que nous retrouverons plus tard. C'est Timothée que Paul appelle son enfant bien-aimé. Telle était l'œuvre du Seigneur à l'Istre. Mais Satan, l'adversaire, veillait, et voyant les âmes arrachées au culte des idoles, c'est-à-dire des démons, il suscita là aussi une violente opposition, et ce fut encore par le moyen des Juifs, de ceux qui prétendaient être le peuple de Dieu. Ils avaient haï le Seigneur Jésus et l'avaient persécuté quand il était sur la terre, et maintenant, ils haïssaient et persécutaient ses disciples. Ils aimaient mieux laisser les pauvres païens adorer leurs fausses divinités que de les voir devenir chrétiens. Quelle méchanceté dans le cœur de l'homme! Il ne semble pas qu'il y eût des Juifs séjournant à l'Istre, mais il en vint d'Antioche et d'Iconium, peut-être pour leurs affaires, et, reconnaissant les apôtres, voyant l'influence qu'ils avaient acquise et l'œuvre de la grâce de Dieu, leur inimitié contre l'Évangile se réveilla. Ils surent, sans doute, par leurs mensonges et leurs calomnies contre Paul et Barnabas, détournés d'eux l'esprit des gens de l'Istre, et les ayant mis de leur parti, ils purent sévir à leur aise contre les apôtres. Comme notre cœur naturel est changeant, est prêt à subir toutes sortes d'influences. Voilà ce peuple qui avait vu la puissance et la grâce de Dieu et avait voulu sacrifier aux apôtres comme à des dieux et qui maintenant les abandonne à leurs ennemis. La persécution alla bien loin. Les Juifs, se sentant appuyés par les gens de Lystre, s'emparèrent de Paul, le lapidèrent et, croyant l'avoir tué, le traînèrent hors de la ville. Ils espéraient ainsi s'être débarrassés de celui qui, après avoir persécuté l'assemblée, était devenu un zélé prédicateur de la foi en Christ. Quelles devaient être les pensées de ce cher serviteur de Dieu quand les pierres lancées par ses cruels ennemis venaient frapper son corps? Autrefois, il avait assisté à la lapidation d'Étienne, le fidèle témoin de Christ, et avait consenti à sa mort. Le voilà maintenant qui souffre de la même manière et pour le même maître. Comme il devait se rappeler cette scène. Mais Paul, maintenant, ne se mettait en peine de rien. Sa vie ne lui était point précieuse. Il la donnait volontiers pour Jésus, qui l'avait aimé et sauvé. Son regard se portait en haut, où Étienne avait vu le Fils de l'homme à la droite de Dieu, et d'où lui-même, Paul, sur le chemin de Damas, avait entendu la voix de Jésus, et en contemplant là son Sauveur, son âme était soutenue au milieu des souffrances. Mais la vie de Paul était précieuse à son Seigneur, qui voulait encore se servir de lui pour annoncer l'Évangile. Les disciples, fruits du travail des apôtres à Lystre, avaient suivi les Juifs traînant hors de la ville le corps de celui qu'ils croyaient avoir tué. Les persécuteurs s'étant éloignés, ils se tenaient là autour de Paul et pleuraient sans doute le cher serviteur de Dieu qui leur avait annoncé le salut. Mais la puissance divine, puissance de vie, avait gardé Paul de la mort sous les coups. Fortifié par elle, malgré ses blessures, l'apôtre se lève, rentre dans la ville et le lendemain poursuit, avec Barnabas, son voyage d'évangélisation. L'animosité des Juifs semble s'être portée surtout sur Paul, probablement à cause de sa plus grande activité. Son abandon du judaïsme, après le zèle ardent qu'il avait manifesté, le désignait aussi d'une manière spéciale à la haine de ceux de sa nation qui étaient ennemis de Jésus. Les apôtres, après avoir quitté Lystre, allèrent à Derbe, située à peu de distance. Là aussi, ils annoncèrent l'Évangile, et un grand nombre de personnes crurent et furent ajoutées à l'assemblée. Ainsi, la persécution qui chassait les apôtres de ville en ville devenait un moyen de répandre la bonne nouvelle. Le nom d'un de ceux qui crurent alors nous a été conservé, c'est Gaius qui, plus tard, devint l'un des compagnons de Paul et qui est, peut-être, le même à qui Jean adressa sa troisième épître. Acte 20, verset 4.
Et Sopater de Bérée, fils de Pyrrhus, l'accompagna jusqu'en Asie, et les Thessaloniciens Aristarque et Second, et Gaius et Timothée de Derbe, et Tichique et Trophime d'Asie.
Derbe fut le terme du voyage d'évangélisation des deux serviteurs de Dieu. Ils auraient pu de là se rendre à Tarse, lieu de naissance de Paul, et pas très éloigné de Derbe, pour retourner en Syrie, mais ils sentirent le besoin de revoir ceux qui, par leurs moyens, avaient été amenés au Seigneur. Ils repassèrent donc par ces lieux où ils avaient souffert pour Christ, par Lystre, Iconium et Antioche. Partout, ils affermissaient les âmes des disciples par leurs enseignements. Ils les exhortaient à persévérer dans la foi qui nous montre Christ, le Sauveur, dans la gloire et revenant pour prendre les siens avec lui. De même que le Seigneur l'avait fait, ils avertissaient les croyants que le seul chemin pour arriver dans la gloire où est Christ, c'est la souffrance. Telles sont aussi les choses que nous avons besoin d'apprendre. Mais dans ces diverses localités, les fidèles avaient formé des assemblées, c'est-à-dire que, sachant qu'ils étaient tous membres de la grande assemblée qui est le corps de Christ et qui comprend tous les croyants, ceux de chaque localité se réunissaient et formaient là la représentation de l'assemblée universelle de Dieu. Ils étaient à Derbe, Lystre, Iconium et ailleurs, les assemblées de Dieu locales, en contraste avec les Juifs d'une part et les païens de l'autre. Et pour présider ces assemblées, veiller sur elles et les paîtres, les apôtres, en vertu de l'autorité qu'ils possédaient, comme leur ayant été donnée directement par le Seigneur, établirent dans chacune d'elles des anciens. Puis, priant avec jeûne, les apôtres, avant de quitter ces chrétiens nouvellement convertis, les recommandèrent au Seigneur. Qu'auraient-ils pu faire de mieux? Ils les plaçaient ainsi immédiatement sous la conduite et la protection de celui qui seul a la puissance de nous garder. Paul et Barnabas revinrent par la Pisidie et la Pamphylie à Perge, où ils annoncèrent aussi l'Évangile. De là, ils descendirent à Attalie, port de mer au sud-ouest de Perge et qui se nomme maintenant Antalya ou Adalia. Là, ils s'embarquèrent et retournèrent à Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. Ils avaient entrepris leur voyage, choisis et envoyés par l'Esprit de Dieu, et l'Assemblée les avait recommandés à Dieu et accompagnés de ses prières pour l'œuvre qu'ils avaient à entreprendre. La puissance et la grâce du Seigneur avaient été avec eux. Ils avaient accompli leurs tâches pour leur bien-aimé maître, et, après leurs fatigues et leurs souffrances, Dieu les avait ramenés dans la chère assemblée qui de cœur avait été avec eux. Ils racontèrent à l'assemblée réunie ce que Dieu avait fait par leurs moyens au milieu des pauvres païens. Quelle joie pour les chrétiens d'Antioche d'apprendre que la bénédiction du salut s'était répandue sur les nations. Le cœur du chrétien se réjouit toujours quand il apprend que des âmes sont sauvées. Si nous avons à cœur la gloire du Sauveur, nous nous réjouirons en apprenant qu'auprès et au loin des âmes sont converties, et nous prierons, et pour les ambassadeurs de Christ, et pour ceux à qui il porte l'heureux message. Les croyants d'entre les nations ne sont pas astreints à observer la loi de Moïse. L'assemblée d'Antioche avait été bien réjouie en apprenant comment Dieu avait été avec Paul et Barnabas et, par leurs moyens, avait ouvert aux nations la porte de la foi. La foi est ce qui nous introduit dans la connaissance de Dieu et du Seigneur Jésus, dans la jouissance du salut et dans l'espérance du ciel, quand Jésus viendra nous prendre pour être avec lui. Voilà pourquoi elle est comparée à une porte. Béni soit Dieu, elle est toujours ouverte, et le Seigneur invite les âmes à y entrer. L'Église s'accroissait donc, les âmes étaient sauvées, le nom du Seigneur était glorifié. Alors l'ennemi, voyant les progrès de l'Évangile parmi les nations, en dépit des persécutions qu'il avait suscitées contre les apôtres, se tourna d'un autre côté pour entraver l'œuvre de Dieu. Des Juifs de la secte des pharisiens, qui avaient cru et étaient entrés dans l'Église chrétienne, y avaient apporté tous leurs préjugés juifs. Ils admettaient bien que les gentils pouvaient être sauvés, Dieu lui-même l'avait montré par la conversion de Corneille, mais ils voulaient imposer le joug de la loi de Moïse aux convertis d'entre les nations. Étant venus à Antioche, ils enseignaient les frères, leur disant que s'ils n'étaient circoncis et s'ils ne gardaient pas la loi de Moïse, ils ne pouvaient pas être sauvés. Ce n'était pas le Saint-Esprit qui les avait envoyés, ce n'était pas l'enseignement de Dieu, et les apôtres à Jérusalem ne leur avaient donné aucun ordre à ce sujet. Ils apportaient à Antioche leurs propres pensées et troublaient ainsi les âmes des fidèles. De tout temps, l'homme a voulu ajouter ses pensées à celles de Dieu qui sont parfaites, et ses œuvres pour le salut à l'œuvre unique et pleinement suffisante de Christ. S'il fallait, pour être sauvé, être circoncis et garder la loi de Moïse, alors l'œuvre du Seigneur Jésus sur la croix n'était pas suffisante. Il n'avait pas tout accompli. Si, comme on le dit souvent de nos jours, il faut faire des œuvres pour être assuré du salut, notre foi et notre espérance ne reposent pas sur Christ seul, mais en partie sur nos œuvres et, par conséquent, sur nous-mêmes. Or, tel n'est pas l'enseignement de Dieu. Jésus est le seul nom donné aux hommes par lequel il nous faille être sauvés. Et l'apôtre dit, vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, non pas sur le principe des œuvres. Éphésiens 2, verset 8. Ceux qui voulaient imposer le joug de la loi aux frères d'Antioche se trompaient donc grandement. Ils mettaient en question la perfection, la suffisance et la plénitude de l'œuvre de Christ. Sans s'en douter, ils étaient des instruments de Satan qui a toujours cherché à rabaisser ou la personne ou l'œuvre du Seigneur. Retenons cette précieuse vérité que Jésus, par l'offrande de lui-même faite une fois pour toutes, sauve pleinement ceux qui croient en lui. Paul et Barnabas, qui étaient instruits par l'Esprit-Saint et avaient à cœur la gloire du Seigneur Jésus, s'opposèrent à ces doctrines pernicieuses. Mais comme ces docteurs juifs venaient de Judée et prétendaient peut-être s'appuyer sur l'autorité des apôtres qui étaient à Jérusalem, l'assemblée d'Antioche résolut d'envoyer dans cette ville Paul et Barnabas avec quelques autres frères afin de consulter les apôtres et les anciens sur cette question. Il était nécessaire qu'il y eût dans toute l'Église une même pensée. Les chrétiens de Jérusalem et ceux d'Antioche ne formaient pas deux assemblées indépendantes l'une de l'autre. Tous faisaient partie de l'assemblée unique de Christ, laquelle est son corps, et comme il n'y a qu'un seul esprit pour former et animer ce corps, il fallait conserver l'unité de l'esprit. Nous comprendrons cela toujours mieux si nous nous attachons à la parole de Dieu et si nous demandons au Seigneur de nous ouvrir l'intelligence pour saisir ses enseignements. Un des efforts de Satan a été de faire oublier aux chrétiens qu'ils sont un seul corps, et il n'a que trop réussi à les diviser. Paul, Barnabas et les autres frères, accompagnés de cœur par l'assemblée, se rendirent à Jérusalem. Sur leur chemin, dans toutes les assemblées de la Phénicie et de la Samarie, ils racontèrent la grâce merveilleuse de Dieu manifestée dans la conversion des nations. Les frères en éprouvèrent une grande joie. L'amour de Dieu, répandu dans leur cœur, les élargissait. Ils comprenaient que c'était la gloire de Christ que les Juifs ne fussent pas seuls sauvés, mais que tous, nations et Juifs, eussent part aux bénédictions célestes que Jésus a acquises par sa mort. Arrivés à Jérusalem, les envoyés d'Antioche furent reçus par l'assemblée, les apôtres et les anciens, et leur exposèrent ce qui s'était passé à Antioche. Une grande discussion s'éleva d'abord. Sans doute les uns, moins éclairés, pensaient-ils que les docteurs pharisiens avaient raison, tandis que les autres, avec Paul et Barnabas, estimaient que Christ, par sa venue, sa mort et sa résurrection, avait mis de côté la loi, qu'ainsi tout était remplacé par sa personne et par son œuvre. Mais le Saint-Esprit, selon la promesse du Seigneur, était au milieu de l'assemblée pour la guider dans la vérité. Pierre, qui avait ouvert le royaume des cieux aux nations à Césarée, se leva et rappela que Dieu l'avait choisi directement pour cela, sans lui commander de leur imposer le joug de la loi. Les Juifs eux-mêmes, ni leur père, n'avaient pu le porter. Ils avaient toujours enfreint la loi et avaient besoin, tout comme les nations, pour être sauvés, de la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Il rappela aussi que, sans circoncision ni loi, le Saint-Esprit était descendu pour habiter dans les croyants, dont le cœur avait été purifié par la foi. La loi n'était donc pas nécessaire pour le salut. Quand Pierre eut cessé de parler, Paul et Barnabas, pour appuyer ses paroles, se mirent à raconter ce que Dieu avait fait par leurs moyens parmi les nations. Ils n'avaient pas prêché la loi, mais Christ, et les âmes avaient été sauvées. Jacques, alors, une des colonnes de l'assemblée de Jérusalem, montra que les paroles des anciens prophètes s'accordaient avec ce qui venait d'être dit, que Dieu a toujours eu, dans sa pensée, d'étendre le salut à toutes les nations, et qu'il l'avait accompli en envoyant Christ, le vrai fils de David. Son avis était donc de ne pas obliger les convertis d'entre les nations à se soumettre à la loi de Moïse, mais de leur rappeler de s'abstenir de manger des choses offertes aux idoles, parce que ça aurait été participer à l'idolâtrie, de fuir les péchés d'impureté si communs parmi les nations païennes, et, enfin, de ne manger ni des bêtes qu'on aurait étouffées pour les tuer, et dont ainsi tout le sang était en elles, ni du sang lui-même. C'était une chose que Dieu avait défendue, non seulement dans la loi, mais aussitôt après le déluge. Genèse 9, verset 4.
Seulement, vous ne mangerez pas la chair avec sa vie, c'est-à-dire son sang.
Dieu nous en donne la raison dans ses paroles, car l'âme, ou la vie, de la chair est dans le sang, et moi je vous l'ai donné sur l'autel pour faire propitiation pour vos âmes. Lévitique 17, verset 10 à 12. Et nous savons que nous sommes rachetés par le précieux sang de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Les apôtres, les anciens et toute l'assemblée acceptèrent les paroles de Pierre et de Jacques. Ils choisirent deux des principaux frères de l'assemblée de Jérusalem, Judas, surnommé Barsabas, et Silas, et les envoyèrent à Antioche avec Paul et Barnabas pour porter à l'assemblée une lettre qui répond bien à ce qui avait risqué de troubler l'assemblée d'Antioche et toutes les assemblées parmi les nations. La voici. Les apôtres et les anciens et les frères, aux frères d'entre les nations qui sont à Antioche, et en Syrie et en Cilicie, partout où Paul et Barnabas avaient prêché, salut. Comme nous avons ouï dire que quelques-uns qui sont sortis d'entre nous vous ont troublés par des discours, bouleversant vos âmes, disant qu'il faut être circoncis et garder la loi, auquel nous n'avons donné aucun ordre, il nous a semblé bon, étant tous d'accord, de choisir parmi nous des hommes et de les envoyer vers vous avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Judas et Silas, qui vous annonceront de bouche les mêmes choses, car il a semblé bon au Saint-Esprit et à nous de ne mettre sur vous aucun autre fardeau que ces choses-ci qui sont nécessaires, qu'on s'abstienne des choses sacrifiées aux idoles, et du sang, et de ce qui est étouffé, et de la fornication. Si vous vous gardez de ces choses, vous ferez bien. Portez-vous bien. Nous voyons par cette lettre que les chrétiens de Jérusalem, et avec eux tous les chrétiens d'entre les Juifs, reconnaissaient comme frères, comme enfants de Dieu au même titre qu'eux, les chrétiens d'entre les nations. Il n'y avait à cet égard ni juifs, ni gentils, mais une seule famille. Tous étaient d'accord pour cela. Les apôtres, les anciens et les frères de Jérusalem reconnaissaient Barnabas et Paul comme de vrais serviteurs de Christ dans l'œuvre de l'Évangile et les entouraient de leur amour. Et enfin, les gentils convertis n'étaient en aucune manière tenus d'observer la loi de Moïse. Christ était suffisant pour eux comme pour les Juifs. Christ, l'espérance de la gloire. Et remarquons que c'était guidé par le Saint-Esprit que les chrétiens de l'assemblée de Jérusalem proclamaient cette précieuse vérité qui affranchissait du joug de la loi. Comprenons bien cependant que si l'on est affranchi de la loi, c'est pour être tout à Christ qui est notre vie, une vie sainte et pure. Les ruses de Satan pour jeter le trouble et la désunion dans l'assemblée furent ainsi déjouées. Il en sera toujours de même si l'on s'attend à Dieu et si on se laisse guider par sa parole et son esprit. Paul, Barnabas, Silas et Judas apportèrent à Antioche la lettre de Jérusalem. Elle fut lue à l'assemblée, les discussions furent apaisées, les cœurs furent consolés. Le trouble cessa, et Judas et Silas, qui étaient aussi prophètes, fortifièrent les frères par leurs exhortations. Le lien qui unissait tous les chrétiens, juifs ou gentils, de toutes les assemblées, fut ainsi affirmé et resserré, selon ce qui est écrit, « En Christ, il n'y a pas grec et juif, Christ est tout et en tous. » Colossiens 3, verset 11. Tous les chrétiens sont baptisés d'un seul esprit pour être un seul corps. 1 Corinthiens 12, verset 13. de l'effort de Satan pour faire du mal à l'assemblée, Dieu tira une bénédiction précieuse. Silas et Judas, après avoir séjourné quelque temps à Antioche, furent renvoyés en paix vers ceux qui les avaient envoyés. Mais il semble que le premier resta à Antioche, car nous le retrouvons bientôt après comme compagnon de Paul.